Je me sens comblé avec Alain Wong.
Bonsoir. Interpellation hier des ministres à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux leur reprochent la non-exécution de recommandations faites par la représentation nationale. Quelle analyse faire du contrôle parlementaire au cours de cette législature? Nos invités dans cette émission sont Clément Kankou-Boukassa, député national de l'opposition et président national du mouvement pour le renouveau MR et coordonnateur de la plateforme Union pour la Nation. Honorable Kankou, bonsoir.
Bonsoir.
Modeste Bahati-Loukwebo, député national de la majorité présidentielle et président national de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC. Honorable Bahati, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Moïla Chiyembe, analyste politique et directeur de l'Institut de géopolitique de Nancy en France. Professeur Moïla, bonsoir.
Bonsoir.
Le quatrième invité, c'est vous, chers auditeurs et internautes. Vous le savez et vous nous écrivez déjà. Kaliba Godefroy de Goma en Nord Kivu, interpellé un ministre du gouvernement congolais égal prêché dans le désert, car tous les ministres ont confiance dans leur parapluie, qui est la majorité. Donc je pense que cette autre interpellation sera sans effet. Xavier de Kinshasa, nous regrettons que ces interpellations arrivent en retard. Nous demandons toutefois aux députés, au moins une fois, de ne pas être complaisants dans le traitement des pareils dossiers, car les ministres semblent n'avoir aucune considération pour eux. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez-le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiotapi.net.
Vous le savez, 9 ministres du gouvernement central ont été invités à s'expliquer hier mercredi devant la plénière de l'Assemblée nationale sur la non-exécution de recommandations faites par la Chambre basse du Parlement. Mais 5 seulement se sont présentés devant la représentation nationale. Au nombre des absents figurés, les ministres des Affaires étrangères, de la Défense, l'ancien combattant, du Plan, de l'Énergie, du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, ainsi que du gouverneur de la Banque centrale du Congo. Plus de détails avec vous, Samuel Kassou.
Tour à tour, les 5 membres du gouvernement ont répondu aux préoccupations des élus du peuple. Le ministre de la Justice et Droits Humains, Luzolo Bambi, s'est présenté entre autres sur les 4 recommandations concernant son secteur. Sa prestation était assortie de preuves d'exécution acceptables selon lui. S'agissant de la spoliation des terrains de l'État, il a indiqué que des poursuites judiciaires étaient en cours contre les spoliateurs et les acquéreurs de mauvaise foi. La procédure de récupération des espaces et immeubles spoliés serait même déjà enclenchée. Le ministre Luzolo Bambi s'est également exprimé sur le contentieux RDC-Ouganda à la Cour internationale de justice, le tabou du Dia-Congo dans le Bas-Congo et des Mbororo dans la province orientale. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mashako Momba, s'est quant à lui efforcé de montrer la volonté du gouvernement dans la réhabilitation, la modernisation et la dotation de moyens conséquents pour le fonctionnement de l'université de Kinshasa. Son collègue des affaires foncières a rappelé les actions entreprises contre la spoliation des terrains de l'État. Le ministre de la fonction publique s'est expliqué sur la démarche entamée pour la mécanisation des nouvelles unités. Rappelons que d'après les statistiques à sa disposition, le ministre des Relations avec le Parlement situe le niveau d'exécution des recommandations à près de 80%.
Honorable Clément Kankou, juste un mot d'abord avant sur ces interpellations.
Non, ces interpellations, je crois que, comme vous le savez, je suis parmi les députés qui a initié le plus d'interpellations à travers le contrôle parlementaire. Et si j'ai un avis par rapport à ce que nous avons suivi ce jour-là, je me rends compte que nous sommes tourné en bourrique par le gouvernement.
Pourquoi?
Mais parce qu'ils nous ont présenté un rapport d'exécution qui ne cadre pas avec la réalité, qui est aux antipodes, je dirais, de ce que le peuple vit au quotidien. Je parle d'un cas précis, parce que nous l'avons dit ce jour-là, le cas d'expoliation. Atene de la Gombe, Atene de la Gare, et d'autres dont on ne parle pas. Ainsi que Dima ici à Kinshasa. Atene de la Gare, quand nous avons interpellé différents ministres là-dessus. On était encore à un niveau. Nous avons fait des recommandations qui ont été transmises quelques mois après au gouvernement. Et aujourd'hui, on nous dit que l'exécution est, donc c'est en cours d'exécution à la récupération, alors qu'il y avait une recommandation claire. On a recommandé ce jour-là à ce que l'État puisse récupérer les bâtiments et que les enfants puissent en jouir. Parce que comme on le dit, c'est bien qui construit sur autrui, construit pour autrui. Je donne un autre exemple à Séné de la Gombe. Quand on a initié cette interpellation, vous savez qu'il y avait même pas une brique qui était construite. Aujourd'hui, il y a un immeuble de deux immeubles de pratiquement 10 étages. Et mieux encore, comme si ça ne suffisait pas, il y a encore 3 personnes qui ont continué à spolier encore le peu d'espace qui restait. C'est comme si le fait d'avoir soulevé ces questions à l'Assemblée nationale, on a laissé libre cours aux gens pour, en tout cas, se prêter à cette forme de banditisme foncier, sans pour autant que l'État réagisse. Nous disons que la faute, on ne le dira jamais assez. Je l'ai rappelé, ça fait 4 ans que j'ai dit la même chose. La faute incombe, c'est vrai, au gouvernement, mais surtout à l'Assemblée nationale, parce qu'on n'a pas du tout assuré le suivi de ce que nous-mêmes nous avons recommandé.
Enfin, la faute incombe également à l'Assemblée nationale. Honorable Clément Kankou, le ministre des Relations avec le Parlement, situe le taux d'exécution des recommandations à près de 80%. Et pourtant, on se souvient qu'à un certain moment, jadis président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avait dit que le taux d'exécution était nul.
Mais écoutez, Vital Kamerhe a eu le courage de dire en son temps la vérité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons nos collègues de la majorité qui sont complaisants avec leurs amis qui sont au pouvoir. Nous sommes pratiquement, disons aujourd'hui, un COD à l'exécutif. On ne peut pas prendre des mesures contre l'exécutif. Quand le ministre dit que le taux d'exécution est de 80%, je crois que sur papier, on peut le distraire sur papier. Mais la réalité, je vous donne des cas précis. À Téné de la Gombe, quand nous avons demandé à ce qu'on arrête la spoliation, on n'avait même pas construit un immeuble. Aujourd'hui, on a construit 3 immeubles, je dirais même 5 immeubles qu'on vient de construire après qu'on ait amené cette affaire au niveau de l'Assemblée nationale. Et le ministre se permet de venir dire que le taux d'exécution est de 80%. Je parle d'Athénée de la Gare, à l'époque quand on l'a dit. Et vous savez ce qui est plus grave encore? Nous avons dénoncé cette affaire, nous avons fait une commission parlementaire avec des recommandations précises. On aurait arrêté l'affaire en ce temps-là, le Libanais qui est dessus ne se serait pas permis aujourd'hui d'obtenir un certificat d'enregistrement sur un bien de l'État, connu de tous. Mieux encore, il a été en justice. Quand le gouvernement fait semblant d'aller en justice, on ne suit pas la procédure, monsieur a gagné à tous les niveaux. Il y a des magistrats, aujourd'hui c'est prouvé, qu'ils ont certainement trempé dans une espèce de concussion pour ne pas dire de corruption. Ils ont offert ce jugement, certainement en échange de quelques billets de dollars, au vu et au su de tous. On en parle aujourd'hui comme si on était en train de faire une découverte, alors que la situation est là, le peuple voit. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui, moi personnellement, je suis touché dans mon amour propre, parce que nous sommes la risée de la population. On me dit toujours dans la rue, mon honorable, vous parlez de telle affaire, vous dénoncez, mais le lendemain, on voit que ça continue. À la limite, mais heureusement que nous avons gardé le moral, nous continuons à travailler, mais ça décourage quelque part. Mais j'espère vraiment que nos collègues vont, pour cette fois-ci, ils vont certainement s'amender devant cette population qui nous a élus pour qu'on puisse finalement régler cette affaire.
Alors avant de donner la parole à l'honorable Baraki, ça fait presque près de 5 ans maintenant, la législature va toucher à sa fin. Comment vous analysez, vous, honorable Kankou, quel bilan vous pouvez dresser des recommandations du Parlement ou de l'Assemblée nationale au gouvernement?
Mais nous l'avons dit, nous l'avons suffisamment dit, vous l'avez vu avant-hier. Même les députés de la majorité ont reconnu, comme nous, que le bilan de l'exécution de nos recommandations, le bilan est nul, pour ne pas dire, je ne parle même pas de faible. C'est-à-dire que ce qu'on nous a amené, c'est du saupoudrage. On est venu tout simplement nous distraire, parce que nous sommes à la fin de la législature, mais, vous savez, il y a des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. À quoi bon avoir fait tout ce travail pour que ces gens continuent à narguer le peuple congolais et à continuer à spolier le peu d'école, le peu d'espace qui nous reste au vu et au su de tous? Vous savez la conséquence c'est laquelle aujourd'hui, maintenant ils commencent même à spolier les privés. Donc une maman peut se retrouver une veuve
un Libanais, un Indo-Pakistanais vient, il prend sa parcelle parce qu'il sait que l'État ne réagit jamais, et voilà, on continue.
Honorable Modeste Bahati, vous êtes député national de la majorité présidentielle, président national de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, AFDC. Quelle analyse vous vous faites du contrôle parlementaire au cours de cette législature?
Pour dire vrai, je dois dire que je ne suis pas satisfait. Bien que je sois député de la majorité, je ne peux pas dire que nous avons eu satisfaction des recommandations que nous avons formulées à l'égard du gouvernement.
Pourquoi?
Pour diverses raisons. D'abord, je ne suis pas d'accord aussi, comme mon collègue Kankou, que le gouvernement ait exécuté 80% des recommandations. Je ne sais pas sur quoi le gouvernement s'est basé, mais chaque député a ses préoccupations. Mes premières préoccupations sont d'ordre sécuritaire et économique. Si je prends ces deux secteurs-là, pour nous, à l'est, et dans les deux Kivu, nord et sud du Kivu, ce qui nous préoccupe le plus, c'est d'abord la sécurité. Et nous avons formulé des recommandations claires pour une nouvelle mise en place au niveau des commandements, de la police, de l'armée, des services de sécurité. Mais au jour d'aujourd'hui, presque rien n'a changé. Deuxièmement, sur le plan économique, chaque député s'est battu pour faire inscrire ne fût-ce qu'un projet de sa contrée ou de sa circonscription dans le budget de l'État. On s'est toujours bousculé à la Commission économique et financière depuis 2007, 2008, 2009, 2010 et dans le budget 2011. Nous avons inscrit plusieurs projets. Je peux vous citer certains pour ce qui me concerne. J'ai fait inscrire le projet de la réhabilitation ou de la modernisation de l'aéroport de Kavumu, la route Kavumu-Goma, la sucrerie de Kiliba, la cimenterie de Katana, les grands hôpitaux de référence et plusieurs autres tronçons routiers. Mais je suis au regret de vous dire, monsieur le journaliste, qu'aucun de ces projets n'a été exécuté par le gouvernement. À tel enfin que nous devenons pratiquement la risée de nos populations. N'oubliez pas que la population ne connaît pas le gouvernement. La population voit la personne qu'elle a élue. C'est cette personne-là qui doit résoudre ses problèmes. C'est cette personne-là qui doit transmettre ses doléances. Or, avec la séparation du pouvoir, tout le monde sait que c'est le gouvernement qui gère les moyens de l'État. Et ces moyens, nous pouvons le dire sans crainte de nous tromper, que c'est privatisé, parce que le ministre qui a en charge tel secteur, par exemple les finances ou le budget, il sait ce qu'il veut, okay. Il sait ce qui lui plaît. Et conséquence, les députés sont en difficulté avec leur base à cause du gouvernement.
Honorable Bahati, vous êtes de la majorité, vous dites que vous n'êtes pas également satisfait de l'exécution des recommandations de l'Assemblée nationale par le gouvernement, mais d'après vous, pourquoi le contrôle parlementaire a-t-il échoué?
Mais le contrôle parlementaire a échoué parce qu'il y a eu manque de volonté politique. Si je prends le dernier rapport que nous avons adopté de la Commission économique et financière, nous avons dénoncé des malversations. Nous avons donné l'occasion à ceux qui sont cités de venir s'expliquer à la Commission économique et financière sur procès-verbal. Ils n'ont pas convaincu. Le dossier a été transmis à qui de droit. Je note que jusqu'aujourd'hui, aucune sanction, ni politique, ni judiciaire n'a été prise. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut insister sur la volonté politique, il faut insister sur le rôle de chaque institution, il faut que les cours et tribunaux fassent aussi leur travail.
Également, il y a également votre complaisance à vous, les députés de la majorité.
Oui, ce sont des griefs, c'est vrai, qui nous sont faits. Nous ne pouvons pas le refuser, mais tout dépend de l'approche, parce que nous avons quand même une méthodologie, nous sommes de la majorité, Notre devoir, c'est d'amener nos ministres à être performants, à bien travailler.
Apparemment, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché, et c'est ce qui a amené justement la majorité présidentielle à se structurer, à prendre de nouvelles options et à constituer une nouvelle plateforme que nous appelons majorité présidentielle, qui, elle, est régie par des textes rigoureux et à l'égard des membres, mais aussi vis-à-vis des institutions. Et donc, nous espérons, et nous avons la ferme conviction, qu'à partir du moment où nous avons signé la nouvelle charte de la majorité présidentielle, les choses vont changer.
Merci. Professeur Moïla Tiende, vous êtes analyste politique et directeur de l'Institut de géopolitique de Nancy en France. Professeur, comment vous analysez, le contrôle parlementaire au cours de cette législature?
Disons que la question de l'interprétation, l'interpellation du ministre dont il est l'objet tout à l'heure, c'est une technique d'information. Les députés ont le droit d'interpeller le ministre pour lui demander des informations sur tel ou tel sujet d'intérêt national, soit que cette question avait échappé à l'attention du gouvernement, ou bien que le Parlement, estimant l'importance de cette question, rappelle le gouvernement à l'ordre ou lui demande, le cas échéant, de mettre le paquet sur la mise en œuvre de telle ou telle question. Mais il faut rappeler que l'interpellation en tant que technique d'information n'a rien à voir avec des directives que donnerait le Parlement au gouvernement. Au nom du principe de séparation des pouvoirs, le Parlement peut interpeller, c'est-à-dire attirer l'attention du gouvernement sur tel ou tel fait, mais le Parlement ne peut pas se substituer au gouvernement. Le gouvernement gouverne et le Parlement légifère. Donc, la responsabilité de faire de loi n'a rien à voir avec la responsabilité d'engager l'action du gouvernement, la mise en œuvre de telle ou telle politique. Donc je comprends bien que les honorables que vous avez sur le plateau puissent se plaindre que le contrôle parlementaire ait échoué, mais l'échec du contrôle parlementaire doit être imputé aux députés eux-mêmes, à commencer par les députés de l'opposition de la majorité. Parce que tout contrôle implique sanction. Si les parlementaires qui ont un mandat, qui votent des lois, s'aperçoivent que leur gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de la majorité, n'applique pas la règle, alors à ce moment-là, il faut le sanctionner, ou politiquement, ou judiciairement. Or, la majorité présente bloc, naturellement, au nom de la solidarité avec son gouvernement, on arrive à des situations un peu rocambolesques, de voir que les députés de la majorité reconnaissent que le contrôle a échoué, mais si le contrôle a échoué, c'est en partie de leur faute, parce qu'ils auraient dû, en tenant compte de la demande de la population, dont ils sont les représentants, sanctionner leur propre gouvernement. Vous me direz que, en termes de majorité, évidemment, il se pose des problèmes de discipline parlementaire, ou bien les députés sont conscients de leur mandat et des comptes qu'ils doivent rendre à la population, auquel cas ils peuvent surpasser leurs propres contradictions et sanctionner leur propre gouvernement. Or, apparemment, d'après ce que disent les députés, apparemment, les choses ne vont pas aller dans ce sens. Donc, par conséquent, je pense qu'il ne faut pas confondre les choses non plus. L'action de gouverner appartient, bien sûr, à l'exécutif, et le législateur fait de loi. Dieu sait combien il y a des lois qui ont été adoptées dans cette législature, mais si les lois ne sont pas traduites dans les actes, évidemment, c'est ou la faute des parlementaires qui ne sanctionnent pas, ou la faute du gouvernement qui, pour une raison ou une autre, soit à privilégier telle ou telle loi au détriment de telle ou autre loi. Évidemment, il y a là une responsabilité partagée entre le gouvernement pour avoir manqué à tel ou tel devoir, soit pour la priorité accordée à telle ou telle loi, et les parlementaires qui, s'apercevant que leur gouvernement, j'entends le gouvernement de la majorité, n'a pas rempli les obligations qui lui étaient confiées, de le sanctionner. Or, faute de sanctions, on ne peut que déplorer effectivement le fait que le contrôle a échoué et que le gouvernement n'a pas fait ce que sa majorité attendait de lui.
Professeur, il y a deux auditeurs qui nous écrivent de Bounia. Le premier, c'est Dr Delphonse qui dit que ces interpellations ne sont que des formalités car elles n'aboutissent jamais, et en sourdine, les interpellés s'en moquent car ils sont hautement protégés soit par le bureau de l'Assemblée nationale ou la majorité au pouvoir. Olivier Ungenuino, de Bougna en province orientale également. Je suis déçu de la façon dont notre pays est géré depuis l'indépendance à ce jour, car nos politiciens ne militent que pour leurs propres intérêts ou encore leur couleur politique. Pour moi, ces interpellations n'auront pas d'effet positif. Les députés cessent de distraire la population congolaise parce qu'en plus, ils ont enfin un mandat professeur.
Mais évidemment, ça revient à notre débat de tout à l'heure. L'interpellation est une technique d'information que les parlementaires disposent pour obtenir tel ou tel élément qui n'a pas été fourni par le gouvernement ou pour justifier tel ou tel acte. Les parlementaires ne peuvent pas non plus remplacer le gouvernement pour agir en lieu et place du gouvernement. Évidemment, dans la mesure où le gouvernement à la majorité au Parlement, et que cette majorité n'est décidée à sanctionner le gouvernement si la majorité estime que le gouvernement n'a pas fait ce qu'on lui demandait de faire, à ce moment-là, on est évidemment dans l'impasse. Et la question qui se pose encore au-delà, c'est où est l'intérêt national? Lorsque les élus, les députés ou les sénateurs sont des élus du peuple, ils ont obtenu mandat, bien que ce mandat ne soit pas impératif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de compte à rendre, et s'ils ne le rendent pas, la population ne peut pas les révoquer, mais il y a une révocation in fine, au bout du mandat, le peuple peut apprécier si tel parti, tel ou tel député a fait ce qu'il devrait faire. Mais en réalité, les députés font de loi, mais les députés ne gouvernent pas. Est-ce que les électeurs primaire, c'est-à-dire le citoyen qui a élu tel ou tel député, distingue-t-il nettement la fonction qui est confiée aux députés du projet de loi?
Merci.
Est-ce qu'on reproche aux députés de gouverner? Les députés n'ont pas la qualité de gouverner, c'est-à-dire de faire appliquer leur propre loi, ce qui serait contraire à la Constitution, bien entendu.
Merci, professeur honorable Clément Cancourt. Prenons cette réaction qui nous vient de Bukavu, celui qui vous pose.
Je me demande combien de ministres ont-ils été sanctionnés par les députés nationaux au cours de ce mandat parce qu'ils n'ont pas appliqué les recommandations de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que le contrôle ne se faisait pas. Ces interpellations sont une manière pour les députés de chercher à se laver le nez en voulant nous faire croire qu'ils n'ont pas contribué au milieu de congolais. Ils partagent les responsabilités avec le gouvernement à travers leur solidarité négative, car pendant toute la législature, il n'y a pas eu un gros débat entre les ministres et les élus.
Réaction, honorable Tanko.
Écoutez, je peux comprendre la déception et la frustration de la population, et j'aimerais plutôt rappeler qu'on doit quand même faire une nette distinction entre ceux qui encouragent cette espèce de complaisance, pour ne pas dire cette solidarité dans le mal. Donc je parle ici, malheureusement, je suis obligé de le dire dans ces termes-là très clairs, nos collègues de la majorité, par rapport à nous de l'opposition.
Donc, visiblement, la population ne semble pas faire la différence, malheureusement.
C'est pourquoi je dis que c'est bien dommage. C'est bien dommage, mais ça ne nous empêche pas de recadrer le débat. Les députés de l'opposition, l'honorable Bah qui vient de le dire, la question, le malaise, c'est au niveau de la majorité. Qu'est-ce que nous, minoritaires, nous pouvons faire? Vous le voyez, vous le vivez. Je crois que Radio Capi est suffisamment présente dans nos plénières. On ne cesse de dénoncer. Mais si nous ne sommes pas suivis, ou s'il y a obstruction volontaire de la part de nos collègues de la majorité, tout ce que nous pouvons faire, nous, c'est de constater que, bon, voilà, les deux sont piqués. Et ça se passe comme ça. Mais je veux rappeler quand même au professeur, quand on parle de mandat impératif, moi, j'ai l'impression plutôt que le mandat, quand il est impératif, est vis-à-vis de son parti politique, pas vis-à-vis de la population. Le député a des comptes à rendre à la population qu'il a élue, qu'il a mandatée. Quand on dit qu'il n'est pas impératif, ce n'est pas par rapport à la population, c'est par rapport à son parti politique. Mais malheureusement, nos collègues de l'AMP, qui devraient plutôt s'appuyer sur cette disposition constitutionnelle pour ne pas tomber dans ce piège d'être solidaire, même quand il ne faut pas, avec leurs amis qui sont au niveau de l'exécutif. Ils auraient pu s'appuyer là-dessus, ils l'ont pas fait. Mais tant mieux, parce qu'ils les reconnaissent eux-mêmes, mais il faut quand même qu'on fasse une nette différence entre ce que nous proposons au niveau de l'opposition, ce qui est, bon, pas seulement, ben, je crois qu'il y a le collègue Bahati est un des rares qui a soulevé une question grave avec le rapport ECOFIN, le dernier rapport, qui a dénoncé des cas de malversation financière avérée, mais malheureusement, il n'a pas été suivi. Mais tout simplement, ce que je veux dire à la population, c'est bien qu'on dise que les députés sont responsables, oui, mais les premiers responsables, c'est ceux qui ont mandaté ces députés-là, ceux qui ont choisi d'envoyer à l'hémicycle des députés qui sont complaisants. Je crois que maintenant, la population doit partager les responsabilités pour qu'en 2011, quand il y aura élection, qu'on puisse sanctionner ces députés qui n'ont pas fait leur travail, qui ont laissé les ministres faire n'importe quoi et qui n'ont pas pu sanctionner. Je vous rappelle, pour terminer par là, le Parlement de transition qui vient que nous avons remplacé. Vous savez que dans ce Parlement, un Parlement des gens désignés à la faveur du dialogue inter-congolais, dialogue entre Congolais, inter-congolais, bon, entre les deux, ces gens ont sanctionné 5 ministres pour des cas de malversation financière. Mais nous, des élus, nous ne parvenons même pas à sanctionner un seul ministre quand il y a des cas tellement graves. Je crois que la population doit aussi comprendre, nous sommes d'accord qu'il y a cette déception, mais il faut bien, bien établir les responsabilités. Les responsabilités sont du côté de la majorité. Point barre.
Honorable Bahati, prenons cette réaction qui nous vient de Lubumbashi Katanga pour vous.
Victoire de Lubumbashi Katanga, le contrôle parlementaire dit qu'il est formalité. Parce que nous avons vu des ministres passer devant ce parlement-là avec des dossiers très lourds. Mais non, au lieu de cela, nous avons vu tous ces ministres revenir à leur fonction comme s'ils n'y rien n'était, tout simplement parce qu'ils appartenaient ou ils appartiennent à la majorité.
Honorable Bahati, ces recommandations ont-elles un caractère contraignant?
Je dois dire que les relations qui régissent le Parlement et le gouvernement sont régies par la Constitution et nous, en ce qui nous concerne, à cela s'ajoute le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les recommandations ont un caractère obligatoire. Mais
Honorable Bahati, honorable,
que nos recommandations, oui.
Excusez-moi, la qualité de votre ligne s'est un peu détériorée là, on n'a pas très bien compris votre réponse. Pouvez-vous répondre, je vous en prie.
Oui, je disais que les relations entre les institutions, et en particulier le Parlement, et pour être plus précis, l'Assemblée nationale qui a le pouvoir de sanctionner, et le gouvernement, sont régis par la Constitution et en ce qui nous concerne, s'ajoute aussi le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. D'emblée, les recommandations, comme le mot l'indique, ce sont en fait une sorte de conseil au gouvernement. Mais ces conseils-là ont des conséquences dans la mesure où nous constatons qu'ils ne sont pas suivis. Je prends un exemple banal. On nous dit qu'il y a un gang qui s'est installé au pont Makété et qui, de manière régulière, à 23h, perturbe la circulation. D'emblée, quand nous avons l'information, nous demandons au gouvernement de se pencher sur ce cas. Jusque-là, ce n'est pas une obligation. Mais si ça continue, là maintenant nous avons des moyens que nous reconnaissons et la Constitution et le règlement intérieur de pouvoir en faire une question orale avec débat de manière à puisse éventuellement déboucher sur une interpellation et une défiance ou alors s'il s'agit de tout le gouvernement, une censure. Donc d'emblée, les recommandations, comme le mot l'indique, ce sont des orientations que nous donnons, mais si elles ne sont pas suivies, parce qu'elles entravent la bonne marche des institutions, parce qu'elles ne répondent pas aux objectifs qu'on s'est fixés, eh bien, les députés peuvent saisir cette occasion-là, constatant qu'il y a inexécution ou mauvaise exécution, pour maintenant sanctionner.
Merci.
Donc ce n'est pas d'emblée, lorsqu'on envoie une recommandation, que ça devient une obligation et qu'on puisse sanctionner à partir de la recommandation. Pour qu'on sanctionne, il faut revenir à la procédure, c'est-à-dire transformer la question en une question orale qui débouche sur une interpellation et à la fin, on peut déchoir le ministre qui est fautif, ou alors si c'est tout le gouvernement, faire tomber tout le gouvernement par une motion de censure.
Merci, Honorable Bahati. Il y a deux auditeurs pour vous également. Guillaume de Kimbo-Maniema. Je pense que les députés nationaux se réveillent en retard alors qu'on s'approche de la fin de la mandature. Ils sont complices de la misère de la population car ils n'ont pas bien rempli leurs tâches en ne s'intéressant qu'à leurs intérêts personnels. Patrick Mwembo de Lukensi au Katanga. Personnellement, je regrette amèrement parce que même si tous ces ministres sont interpellés, ils ne sont pas sanctionnés. Alors pourquoi les faire venir tout le temps devant cette assemblée? Bref, réaction, honorable Bahati.
Vous dire qu'on se réveille tard, non. Je crois que nous avons toujours parlé et nous avons les recommandations auxquelles on fait allusion. Elles ne se rapportent pas à un seul exercice. Ce sont des recommandations cumulées. Et je vous dis qu'il a fallu qu'on insiste beaucoup pour que finalement le gouvernement vienne répondre. Parce que c'est depuis l'année passée que les députés ont insisté sur l'évaluation des recommandations formulées à l'égard du gouvernement.
Merci.
C'est pour dire qu'à un moment donné, je dois le reconnaître, qu'on n'a pas été très sévère. On n'a pas été très sévère.
Malheureusement, c'est vers la fin que vous le reconnaissez.
Ben, vaut mieux tard que jamais. Parce que, comme vous le savez, nous veillons aussi à la stabilité des institutions.
En ne fonctionnant pas.
La stabilité ne rime pas avec l'impunité. Et c'est dommage que vous m'ayez choisi, moi, honorable Bahati Lukwebo, pour parler de cette question.
Merci.
Parce que tous les députés, et de la majorité, et de l'opposition, connaissent ma position. Que je ne suis pas complaisant.
Merci.
Mais je reste seul, isolé. Vous auriez pu prendre un député parmi ceux qui défendent l'indéfendable et que vous connaissez très bien pour l'opposer à l'honorable Clément Kankou. Donc, moi, en ce qui me concerne, je suis sincère et j'estime que nous n'avons pas fait notre travail, celui de sanctionner le gouvernement.
Merci, honorable. Professeur Moïla Tiende, il faut déjà tirer des leçons de cette législature. À la prochaine législature, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que les choses aillent mieux dans ce sens?
Ben, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, mais si j'écoute bien avec la pertinence des propos de l'honorable Bahati et Kankou, ben, ils reconnaissent que la loi leur a donné une arme qui est la sanction. Évidemment, si les députés, soit parce que la majorité protège son gouvernement et n'agit pas pour le sanctionner, ou bien la minorité, comme disait tout à l'heure honorable Kankou, peut bien se lever, agiter les taux et la minorité peut être défaite par le vote ou le refus de vote par la majorité. Et à ce moment-là, il n'y a rien de plus qui est passé. Vous savez, dans tous les parlements du monde, il n'y a pas que le Parlement congolais. Partout dans le monde, en France ou ailleurs, les majorités sont toujours solidaires. C'est à l'honneur de l'honorable Bahati de reconnaître que sa majorité n'a pas assumé la charge de la sanction qui est l'une des voies accordée par le Parlement à ses parlementaires, donc à ses élus, pour pouvoir sanctionner, le cas échéant, le gouvernement, soit collectivement par la motion de censure, soit la décharge des ministres en plus ex-qualité. Donc, on peut améliorer les procédures, on peut demander à tel ou tel d'avoir une bonne foi, mais ça ne suffit pas s'il n'y a pas une volonté d'aller à la protection de l'intérêt général. C'est peut-être là où le bas blesse. Que les députés ou les sénateurs protègent leur gouvernement, c'est une chose tout à fait banale. Ça se fait partout, ici et ailleurs. Mais est-ce que cette protection doit aller jusqu'à, comment dirais-je, pervertir l'intérêt national? C'est là où il faut non seulement la responsabilité du gouvernement, mais également la responsabilité du Parlement, la responsabilité des élus. Alors, il y a des limites au-delà desquelles nul ne peut aller si vraiment on veut sauvegarder la démocratie, c'est-à-dire la confiance que les citoyens placent en leurs députés. Sinon, on peut craindre demain que soit les citoyens ne s'engagent pas à aller voter parce que estimant que le pouvoir ou le Parlement ne sert à rien, ce qui serait tout à fait dérisoire ou tout à fait contradictoire, parce que il y a eu beaucoup de batailles pour que la démocratie s'instaure dans ce pays. Il n'y a pas de raison de se décourager parce qu'il y a eu une législature où telle chose n'a pas été faite. Bref, il y a lieu de dire que ce qui importe, c'est la défense et la promotion de l'intérêt général, l'intérêt public. Les députés de la majorité, comme les députés de l'opposition, ont l'obligation de veiller à l'intérêt général. Sinon, ce ne serait pas des députés en tant que représentants du peuple. Alors, à ce moment-là, c'est à chacun de faire le tour d'horizon devant sa conscience, devant sa majorité, pour voir ce qui n'a pas marché et ce qu'il peut faire, et ce que l'on peut faire marcher probablement à l'occasion prochaine des élections et de l'élection future, évidemment.
Merci, professeur. Beaucoup d'auditeurs nous écrivent. Bonnie Monanguier de Bénion-Ortigou. Cette série d'interpellations est un coup d'épée dans l'eau, car il y a de la complaisance entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Je pense que c'est même que nous assistons dans ce pays à un match de football dont le score est déjà nul. Calé à Marcel de Boutembo, en Orkivo également, je pense que nos députés ont échoué dans leur mission de contrôle de l'exécutif durant ce mandat. Cédric Kabouiné de Kalima au Maniema, je pense que les parlementaires ont eu un mandat du peuple, mais une chose est certaine, ils ont plus travaillé pour leur parti politique, oubliant ce paisible citoyen de la RDC qui a fait en sorte qu'ils occupent ce poste. Serge de Bouna en province orientale, nos élus veulent se ressaisir en toute dernière minute avec ces interpellations, alors qu'on sait que le contrôle parlementaire a été un fiasco. Kassamba de Bouna, province orientale, que nos élus ne s'amendent pas en pointant le doigt accusateur pour le fiasco social que nous vivons vers un gouvernement dont ils ont toujours été complices, le peuple est devenu mûr et que chacun de nos députés attend de récolter ce qu'il a sémé aux prochaines échéances électorales. Michel Lukuzi de Lumbasso-Katanga, je pense que ces interpellations ne sont qu'une distraction de la part de la majorité au pouvoir. Honorable Thomas Kankou, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer à la prochaine législature? Est-ce qu'il faut améliorer les lois? Ne faudrait-il pas les rendre plus coercitives?
Je pense qu'il faut vraiment les rendre plus coercitifs. Et puis, je rappelle quand même que depuis 2009, nous cessons de demander à ce qu'il y ait évaluation du contrôle parlementaire. Et il y a même une motion incidentielle qui a été approuvée par toute la plénière qui nous donnait la possibilité d'interpeller le Premier ministre. Ça a été déposé au mois de décembre 2009. Et depuis, cette interpellation a été placé dans le tiroir, et on en parle aujourd'hui comme si c'était une découverte. Donc je crois que ceux qui suivent les travaux à l'Assemblée nationale verront que nous faisons ce que nous devons faire. Je suis le seul, et je le dis la main sur le cœur, qui rappelle à chaque reprise de session, à chaque clôture, à chaque reprise que nous avons un contentieux. Les contentieux, ce sont nos recommandations qui ne sont pas suivies. Et alors, à ce moment-là, je crois que les choses doivent être suffisamment claires. Nous faisons, nous, députés de l'opposition, ce que nous devons faire. Malheureusement, des députés comme l'honorable Baraki sont marginalisés parce que la majorité de ces députés jouent de cette espèce de solidarité avec les membres du gouvernement. Et je soutiens ce que le professeur vient de dire. Vous savez, le risque, c'est que les gens puissent se désintéresser, finalement, à la politique. Même aux élections, parce qu'en se disant, ça sert à quoi de voter, ça sert à quoi d'envoyer les gens à l'Assemblée nationale, si c'est pour que ces gens donnent l'impression de ne rouler que pour eux-mêmes. Mais je veux rassurer la population que ça, ce sont des cas qui sont bien établis, ça vient du côté de la majorité.
Alors, la prochaine législature,
ce qu'il faut améliorer, la première des choses, c'est d'abord d'envoyer des députés consciencieux, patriotes, des députés qui peuvent réellement défendre les intérêts de la population à la place des intérêts de leur parti. Un problème d'homme de un. De deux, c'est vrai qu'il faut renforcer les lois. Là, je crois que je vais, si Dieu me fait grâce d'être encore à l'Assemblée nationale, je vais militer pour qu'il y ait des lois plus coercitives, comme on a dit, pour les membres du gouvernement, pour ne pas qu'on se limite à ne faire que de simples recommandations. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus glisser dans la séparation de pouvoir, parce qu'on ne doit pas faire non plus le travail du gouvernement, mais nous avons une arme, c'est la sanction.
Honorable Modeste Bahati, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour l'honorable Tankou? Il faut améliorer et les hommes et les lois.
Qu'est-ce qu'il faut en plus?
Je pense que si ça ne dépendait que des lois, les lois qui sont là sont déjà suffisantes, elles sont bien rédigées pour que chaque personne, chaque acteur puisse jouer son rôle. J'ai reconnu tout à l'heure que du côté de la majorité, c'est vrai, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire plus. J'ai reconnu également que nous-mêmes, nous avons fait cette étude interne et c'est ce qui nous a amené à nous restructurer pour que cette fois-ci, les choses deviennent beaucoup plus sérieuses. Je crois que s'il y a des lois à prendre lors de la prochaine législature, c'est notamment une loi pour sanctionner les fausses promesses électorales. Parce qu'il faut quand même reconnaître que la démagogie a débordé, elle a dépassé les limites dans notre pays. Si on peut arriver à proposer une loi dans ce sens-là, je crois que ça contribuerait aussi à finir le milieu politique pour que les politiques ne soient plus assimilés à des menteurs. Et je pense que pour terminer, les sanctions sont de divers ordres. Les sanctions peuvent être politiques, judiciaires et même morales. Bon, mais jusque-là, vous savez, comme je l'ai dit, chaque institution doit jouer son rôle.
Merci.
Nous avons essayé de jouer le nôtre dans les limites qui sont les nôtres. Le prof Maïla vous a bien dit que partout ailleurs, il y a une sorte de solidarité des majorités. Mais moi, personnellement, je trouve que je ne dois pas être solidaire du mal.
Merci, professeur. Professeur, oui, vous êtes également professeur Bahati. Professeur Maïla Siembe, il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Il va déjà falloir conclure en 30 secondes.
Oui, pour conclure, il faut souhaiter que les députés prennent conscience de la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis du pays et de l'espérance qui a été placée en eux. Quelle que soit la qualité de loi, quelle que soit la qualité des personnes, s'il n'y a pas une conscience claire de ce que l'on fait, de l'intérêt du pays qu'il faut défendre, les meilleures lois ne peuvent pas remplacer la qualité des hommes et la conscience que ces hommes et ces femmes ont de défendre l'intérêt de leur pays.
Professeur, l'honorable Tanko a dit tout à l'heure que la population devrait partager également cet échec de la non-exécution de recommandations pour avoir désigné des députés qui ont été solidaires entre guillemets dans le mal.
Mais je ne sais pas s'il y a une responsabilité de la population dans la mesure où la population a été sollicitée et l'a votée dans les conditions où le vote a eu lieu dans les années 2006. Alors peut-être que maintenant, à rebours, au bout de la législature, est-ce que la population a encore la possibilité d'être éclairée par le débat pour pouvoir faire un choix rationnel? Vous savez, ici comme ailleurs, on n'est pas toujours habitué à voir la population voter d'une manière rationnelle, que ce soit aux États-Unis, à Paris ou ailleurs. Ce n'est pas toujours évident, mais ça arrive souvent. Donc il ne faut pas désespérer, il faut toujours donner la meilleure information, éduquer la population par l'information, par le débat. Ben évidemment, on arrivera un jour à voir une population éclairée qui vote d'une manière consciencieuse. C'est à ce prix probablement que les choses s'enlèvent.
Merci, professeur honorable Kankou. À au moins, guise de conclusion.
Écoutez, je pense que nos collègues de la majorité devraient vraiment s'amender, ne serait-ce qu'à la fin de la législature, pour rencontrer les aspirations et les attentes de notre population. Et je ne peux m'empêcher de terminer en présentant mes condoléances à la famille de notre collègue Kamonis, qui est mort tout à l'heure, après avoir intervenu à l'Assemblée nationale, et mes sincères condoléances à toute sa famille.
Honorable Modeste Bahati, un mot également pour terminer.
Oui, je dirais que les auditeurs qui ont estimé que les interpellations, c'est comme si on prêchait dans le désert, n'ont pas totalement tort, dans la mesure où ces interpellations, même les échanges qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, ne sont pas à confondre avec les questions orales, avec ou sans débat, lesquelles conduisent vers la sanction.
Merci.
Mais comme je l'ai dit, il vaut mieux tard que jamais. Nous avons essayé de nous amender
merci,
dans la mesure du possible.
Merci, honorable. Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Merci à Samuel Kassak, Mimou Kindou, Guy Maté, Pélikipé Lamondo et Patrick Tchaskongwa qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Présentation et coordination à Alain Rung. Au revoir.
Thank you.